Bonjour frère et sœur, vous allez bien? Aux nouvelles, vous avez entendu que le père d'Hélène est décédé hier à 5h moins quart. Mais j'en profite pour vous le dire ici pour une raison. Hélène a assisté à ce qu'on appelle au dernier souffle. Hélène était présente au dernier souffle. Et elle a pu faire un cadeau à son père avant qu'il meure. Elle lui a chuchoté le psaume 23 à l'oreille. Je vous dis ça pour une raison. Vous rappelez-vous, il y a quelque temps, Trevor nous disait que c'est important d'apprendre des versets par cœur. Et là, ça a de l'impact. C'est un cadeau qu'on peut faire aux gens lorsqu'on connaît les versets par cœur. C'est pas un fardeau que l'on a sur nous. C'est un cadeau que l'on fait aux gens. Et dans tout cela, je regardais mon héroïne, Hélène, qui avait pu le faire, puis je me disais, j'aimerais tellement, lors de mon décès, que quelqu'un me chuchote le psaume 23 à l'oreille. Voilà. Résister. Et voyez-vous, la première image n'a aucun rapport avec les armes. C'est un phare qui est assailli par la mer. Mais lorsque je l'ai mis, cette image-là me disait, voilà un symbole de résistance. Le phare se fait attaquer par la mer constamment, constamment, et il reste debout, il résiste. J'ai dit, je vais l'enlever, ça n'a pas rapport avec les armes. Ah non, je le laisse. Je vais l'enlever, ça, non, non, je le laisse. Je vais l'enlever, me semble que. Non, non, je le laisse. Finalement, je vous le présente aujourd'hui. Résister, comme un phare. Comme, malgré toutes les attaques que l'on va voir ce matin, résister comme un phare. Les armes de Dieu. J'aimerais. Vous allez trouver ça bizarre, mais j'aimerais avoir une Bible. Parce que d'habitude, je prends ma tablette. Mais là, ma tablette a un problème, puis je ne veux pas sortir du texte. Parce que pendant qu'Adama priait, j'avais pas de texte qui apparaissait. Je me dis, m'a tout fait ça par cœur, ça marche pas. Là, j'étais comme confus. Ah, j'ai dit, ça fonctionne pas. Et Christian Leclerc a réussi à trouver le problème et il l'a réglé. Merci, Christian. Tu me sauves la vie. Ou du moins une partie de ma vie. Et on va lire les textes pour se mettre dans le contexte. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et le texte que notre frère Adama va nous prendre la semaine prochaine, Dieu voulant, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. C'est bien. Merci, Simon Pierre. Est-ce que tu veux suivre? Ça va? Je vais dévoiler encore le plexus radius que notre frère l'a appelé, c'est une tracée. Je veux pas le. Bon, voilà. Voilà. Les armes de Dieu. Si on lit bien le livre d'Éphésiens, on va voir que le livre d'Éphésiens nous parle de toutes sortes de richesses. Des richesses de sa gloire, des richesses des bénédictions, des richesses de sa grâce, des richesses de sa personne elle-même, nous avons tout pleinement en lui, la richesse de notre héritage. Et aujourd'hui, nous voyons une richesse, les armes de Dieu. C'est une véritable richesse. Naturellement, si je vous amène un bouclier, une épée puis un casque aujourd'hui, vous allez dire, il n'y a pas grand richesse à avoir ça dans mes mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Surtout en 2017. Mais pour un soldat qui va au combat, il n'y a rien qui peut remplacer ça. C'est sa richesse. Ils valent de l'or. Ils valent même plus que l'or. Ces choses-là valent sa vie. S'il se sépare de ses armes, c'est sa vie qui est en jeu. Donc, vous allez en Afghanistan, vous allez voir un soldat qui s'en va au front, vous dites, OK, je vais te donner 1 000 $ pour ton arme. Je vais te donner 20 000 $ pour ton arme. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout cet argent-là? Tu m'envoies à la mort. Ça ne vaut rien, sauf si je l'ai. Pour un chrétien qui ne se préoccupe pas des armes de Dieu, le coup, ce n'est pas la vie. Notre frère l'a cité ce matin, notre frère Carl l'a cité dans son... Rien ne va nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Nous avons cette vie éternelle. Mais nous sommes entourés d'ennemis. Nous sommes entourés de toutes sortes d'influences. Et la victoire pour eux, c'est lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Voilà la véritable victoire. Lorsque nous ne faisons plus la volonté de Dieu, lorsqu'on se laisse aller à toutes sortes de penchants, et là, il dit, yes, je l'ai eu. Je ne peux pas lui enlever la vie. Il l'a pour l'éternité. Mais je peux lui lire, par exemple. Et nous péchons contre le Seigneur lorsque nous évitons de prendre les armes. Les armes de Dieu viennent avec la nouvelle vie. Lorsque nous prenons allégeance avec Dieu, lorsque nous disons à Dieu, viens dans ma vie, le Dieu va dire, passe au département des armes, ils sont là, ils t'attendent. Et cela au premier jour. Et notre part d'obéissance, c'est d'aller les chercher et de les prendre, de les appliquer à notre vie. Voilà notre part. Le magasin des armes est ouvert tous les jours. Et nous n'avons juste qu'à y mettre les pieds, prendre les armes. On doit être conscient que notre maturité spirituelle dépend de la manière que je porte et que je manie ces armes. Lorsque vous serez chez vous, cet après-midi, demain, après-demain, peu importe, lorsque vous retournerez chez vous, relisez les textes. Mais ne les lisez pas comme des mots qui sont alignés les uns derrière les autres. Lisez-les et regardez s'ils peuvent se connecter avec votre quotidien. Et la parole de Dieu fera son impact dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos pensées. L'image que Paul utilise ici a été écrite en 60-62. Mais elle a toujours son impact, elle est toujours actuelle. La parole de Dieu est vivante, elle traverse les siècles et elle ne se démode pas. Elle a une influence pour nous. Si on commençait à voir les armes, on pourrait regarder le bouclier de la foi. Le bouclier... arme essentiellement défensive. Très rare qu'un soldat va utiliser son bouclier pour tuer du monde. Mais le bouclier que Paul utilise, le mot que Paul utilise pour le bouclier, c'est vraiment ce genre de bouclier-là qui couvrait tout le corps du soldat. Il protégeait contre les flèches enflammées de l'ennemi. Et le bouclier de la foi, on connaît le principe de la foi. On n'est pas ignorant de la foi. La signification même du mot, c'est s'appuyer sur, mettre sa confiance en. C'est ça qui veut dire la foi. J'ai confiance en. Pour ce qui nous regarde, c'est j'ai confiance en Dieu. Le bouclier pour le soldat, la foi pour le chrétien, sert de protection contre les traits enflammés du malin. La foi du chrétien, c'est sa protection. Et c'est ce que Paul veut nous dire. Il est très enflammé. C'est quoi ces détresses? On comprend que le soldat, il y a des flèches qui voltigent au-dessus de lui, et les flèches sont pleines de flammes et tout ça, mais le chrétien, c'est quoi? Qui lance les traits enflammés? Le malin. Le malin, selon Jean 8,44, il dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est menteur, il est le père du mensonge. Les attaques du malin sont essentiellement des mensonges. Les attaques du malin ne servent qu'à nous tromper, servent qu'à nous égarer. Ils servent à nous emmener loin, hors de la volonté de Dieu, dans nos pensées. Satan est constamment à l'attaque. Constamment. C'est une constante. Il va attaquer jusqu'à ce que le Seigneur nous débarrasse de la présence du péché. Mais tant et aussi longtemps que nous allons être sur la terre, Satan attaque. Et il va tout faire. Et il va surtout viser vos points faibles. On en a tous. Moi, je les multiplie, je collectionne les points faibles. Il y a beaucoup de place, Satan. Il est constamment à l'attaque pour influencer nos pensées, pour nous détourner de la vérité. La défensive de Dieu, ça a été son bouclier. Je vous garantis, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Rien. Et les attaques peuvent se produire à tout moment, sans même les provoquer. Comme exemple, je suis en voyage à l'extérieur et je suis perdu dans mes pensées, comme ça m'arrive souvent. Je suis un rêveur, moi, de nature. Et je m'en vais dans mes pensées. Je pense à toutes sortes de choses qui me passent par la tête. Et bientôt, je m'en vais à ma retraite. Bientôt. Question de moi. Et naturellement, les pensées qui me viennent, c'est je veux avoir assez d'argent pour ma retraite. Qu'est-ce que je vais faire de ma retraite? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Comment est-ce que je pourrais bien faire pour... je vais-tu être obligé de vendre ma maison? Je vais-tu être obligé de retourner travailler parce que... Je vais-tu... Et là, l'inquiétude monte. Et là, ça monte, ça grandit tranquillement. Et je ne réussis pas à me sortir de ces pensées-là. Et ça se développe. Jusqu'à ce que, encore mon héroïne... Mon épouse qui me dit, « Hey, ça fait au-dessus de 30 ans que le Seigneur est avec toi et qu'il t'a déjà abandonné. Hein, t'as bien raison. Pourquoi est-ce qu'il me lâcherait là? C'est impossible. C'est une impossibilité. Où il est, mon bouclier? Pourquoi son action n'agissait pas sur moi? Je l'ai-tu laissé à l'armurerie? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Est-ce que je me suis laissé influencer par ces faussetés que Satan m'insuffle? On en a tous des faussetés. On reçoit tous des faussetés dans notre vie. Et on imagine toutes sortes de choses. Qu'est-ce que va faire mon enfant plus tard? Qu'est-ce qu'il va devenir? Je vais-tu arriver à payer mes comptes à la fin du mois? Je vais-tu trouver du travail? Est-ce que le Seigneur va me donner que je vais être capable d'avoir ou de ne pas avoir? Est-ce que je vais être malade? Lorsque je me regarde dans le miroir et que je me pose la question, quel genre de vieillesse est-ce que je vais vivre? Je vois déjà des gens qui vont dire, oh, ça va être laite. On ne le dira pas, on dit juste qu'il est au son. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le film de notre vie, ce n'est pas nous les acteurs principaux. Nous, on est juste des figurants. Dieu est l'acteur principal. C'est à lui que revient le gros plan. Pour répondre à cette question, à propos de ma vieillesse devant mon miroir, c'est plutôt, Seigneur, fais que ma vieillesse soit à ta gloire, à tous les jours. Peu importe ce que je vais avoir de l'air, peu importe ce que je vais vivre, que tu sois glorifié à l'endroit où je suis, à l'âge où ce que j'ai. Nous avons tous ces pensées-là qui nous rôdent autour, qui disent à quelque part, « Oui, mais t'es pas inquiet d'eux. » Regarde Trump, là, regarde Kim Jong-un, je ne sais plus comment il s'appelle. « Oui, mais ça va s'en aller en escalade. » Oui, et puis, Dieu est au-dessus de tout ça. Les pensées qui ne sont plus arrêtées par le bouclier de la foi dure le temps qu'on leur laisse. Les pensées, les tentations, durent le temps qu'on leur laisse. Une journée, une semaine, un an peut-être. Mais ils font leur dommage. Ces pensées-là, les choses qui passent dans notre vie, font leur dommage. Premièrement, parce qu'ils arrêtent notre croissance, notre maturité spirituelle. La foi et la persévérance sont directement liés à notre croissance. Si vous arrêtez d'avoir cette foi et cette persévérance en Dieu, vous arrêtez de grandir. Et une journée où ce que vous ne grandissez pas, c'est une journée de perdu. Et d'ailleurs, il y a une maladie qui existe comme ça. Les jeunes arrêtent de grandir. Ils sont adultes puis ils mesurent 4 pieds. Et ils sont tout petits. Et c'est une maladie. Et deuxièmement, c'est une insulte à notre Seigneur de ne pas prendre les arbres. Récemment, je regardais un film de Hacksaw Ridge. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici, mais c'est un fait vécu. Et c'est un jeune homme qui a décidé de servir son pays à la Deuxième Guerre mondiale contre les Japonais. Mais avant, il s'était engagé à ne plus jamais prendre d'armes devant Dieu, à cause d'un problème qu'il avait eu, et il s'est dit devant Dieu, et c'est un chrétien, il dit, je m'engage à ne plus jamais mettre d'armes entre mes mains. Mais il voulait servir son pays. Donc, il s'en va, il s'engage, ça, il commence l'entraînement, et naturellement, le sergent-chef met un fusil entre ses mains, il dit, non, je ne peux pas. Quoi? Tu ne peux pas prendre cette arme-là? Je me suis engagé devant Dieu à ne pas prendre d'armes et je ne prends pas d'armes. Ses compagnons ont dit, t'es un traître. Ils ont commencé à le battre. Les généraux ont descendu. Il a passé devant un conseil militaire. Il a été accusé de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il refusait l'arme. Tout simplement. Je ne vous donne pas la fin du film, vous l'écouterez. Très bon film d'ailleurs. Mais c'est une insulte à notre Seigneur de refuser ses armes, de ne pas s'en occuper. Je ne les refuse pas, je ne les prends pas. Je ne les refuse pas, je continue ma vie comme je veux. Ne soyons pas une insulte. Et que ce bouclier de la foi fasse que nous amenions nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Gardons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Le casque du salut. Le casque est aussi une arme défensive. Et aucun soldat ne s'engagerait dans une bataille sans casque. C'est un suicide. L'idée du casque est reprise dans 1 Thessaloniciens lorsqu'il dit « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Le terme « espérance » ici est une heureuse anticipation des choses futures et certaines qui vont arriver. Le lien entre le casque et le salut, ou l'espérance du salut, nous parle de l'assurance que l'on va avoir, que nous avons pour notre futur. Je n'ai pas à mettre de doute dans mes pensées face à mon avenir avec Dieu. J'ai cette assurance que mon éternité est garantie en Christ. Cet aspect du plan de Dieu est important, étant donné que malgré tous les efforts que je peux faire pour ne pas pécher, malheureusement, je tombe. Je vous l'apprends là, je m'excuse, mais je tombe. Je pêche aussi, parfois même consciemment. Et par ce fait même, je ne mérite absolument pas le salut. Et si je le méritais hier, ce matin, je l'ai perdu. Mais de savoir que jamais je ne serai rejeté par Dieu grâce à son Fils, voilà mon assurance. Que je le serve de la bonne façon, de la moins bonne façon, ou même mal, carrément. Son amour inconditionnel ne change pas. Quelle grâce, quelle valeur ce casque du salut a sur ma tête. Et Dieu n'a pas voulu que ce concept-là du casque du salut soit un concept flou, imprécis, vague. Si c'est ça dans vos têtes, mettez ça au clair avec Dieu. Ce n'est pas vague. Dieu a voulu que ce soit bien ancré dans mon intelligence. Je suis sauvé pour l'éternité. Une protection qui fait en sorte que je puisse être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je n'ai pas à revenir constamment en arrière et questionner mon salut. Nous avons tout pleinement en lui et pour l'éternité. Notre tête le reconnaît et notre intelligence peut l'adorer et le glorifier. Et je vais pouvoir le faire demain, après-demain, jusque dans l'éternité. La valeur de ce casque, la valeur du salut. Naturellement, j'ai été censé apporter une épée. J'avais un petit-fils à la maison qui collectionnait les épées et j'en ai des super belles. Ce matin, dans l'énervement, je l'ai oublié. Voilà. Mais on va prendre celle-là ici. OK. Ouh. Une épée. L'épée d'esprit. Ça, c'est une arme qui est autant défensive qu'offensive. Les soldats s'en servent pour contrecarrer les attaques, mais ils s'en servent aussi pour amorcer des attaques contre l'ennemi. Dieu s'adresse avec nous avec le même discours. Défensivement, lorsque Christ a été tenté par Satan à la sortie de son désert après 40 jours de jeûne, il a utilisé la parole contre Satan. Et c'est seulement que la parole qu'il a utilisée. Et il a même utilisé qu'un seul livre pour contrer Satan. Christ connaissait la puissance de la parole. Dans Hébreux 4:12, il nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est l'arme la plus efficace pour se défendre contre l'ennemi. Quel ennemi? Quels sont les ennemis? Ce n'est pas mon confrère de travail qui rit de moi parce que je fais ma prière avant de manger mon dîner. Ce n'est pas mon beau-frère qui rit de moi ou qui se moque de moi ou qui est choqué contre moi parce que je veux tout simplement être honnête. Ce n'est pas mon patron qui se sent jugé en ma présence lorsque lui essaye de faire des passes tout croche. Ce n'est pas ces gens-là. Ces personnes-là que nous rencontrons, tous ceux qui sont autour de nous, ne sont pas nos ennemis. C'est des gens qui ont besoin de connaître et surtout d'expérimenter l'amour de Dieu pour. Tout être humain sur terre porte l'empreinte de Dieu. Tout être humain sur terre porte l'empreinte de Dieu. Et pour cela, on doit les respecter, on doit les aimer, comme Dieu veut qu'on les aime, comme lui-même il les aime. Finalement, ce sont des gens qui sont trompés par les véritables ennemis. Les véritables ennemis, le système du monde, Satan et la chair. Les véritables ennemis. Le système du monde. Jean 4:4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde ne se rend ennemi de Dieu. Le système du monde contre la parole de Dieu. Lorsque le monde nous martèle en disant « Sois riche, prospère, ta valeur vient de cela. » Chez nous, c'est important. Dans ma famille, je parle, c'est important l'argent. Si tu as beaucoup d'argent, tu es considéré. Si tu n'en as pas beaucoup, tu as manqué ton coup. Ta valeur réside dans ton compte de banque. C'est pour ça que je ne l'ai pas dévoilé. Je suis un peu hypocrite. parce que c'est moi le plus pauvre de la famille. Mais ils ne savent pas toute la richesse que j'ai. Là. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans Hébreux, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » La valeur de la parole de Dieu dans tous les systèmes du monde. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de la paix. Hein? On est très inquiet. Lorsque vous ouvrez les nouvelles, la première chose que l'on parle, c'est la paix dans le monde. Parce qu'elle est très maganée, c'est ainsi, la paix dans le monde. Hein? Okay? Avoir la paix grâce aux armes. Je vais avoir tout un stock d'armes nucléaires, comme ça, je vais avoir la paix. C'est donc bien hypocrite, ça. Je ne comprends pas l'argument, je ne comprends pas l'hypothèse. Avoir quelque chose qui va me détruire moi-même parce que je veux détruire un autre, parce que je ne veux pas détruire. Où ça vient, la paix avec les armes? Ça ne fait pas de sens. La parole de Dieu, je vous laisse la paix, ce que mon frère Carl a mentionné ce matin. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Dieu, la véritable paix. La paix où ce qu'il faut qu'elle soit dans mon cœur. Ça ne me dérange pas du tout moi, que Trump et que l'autre se crêpe le chignon. C'est la paix dans mon cœur qui est importante. Et que je puisse aussi l'étendre, cette paix-là. Et c'est la parole de Dieu qui me donne des arguments pour le faire. C'est l'épée de l'esprit. C'est elle qui me dit à quelque part, voilà. C'est comme ça que tu vas trouver la paix. C'est dirigé, guidé par la parole de Dieu. Et on a un autre ennemi, Satan. On a vu tout à l'heure, dans Jean 8, 44, et voici le verset au complet. « Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà l'ennemi. Mais la parole de Dieu nous dit, à quelque part, qui, non seulement qui il est, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voici, la parole de Dieu nous présente l'ennemi. Mais elle nous présente aussi la solution pour l'ennemi. Résiste-lui avec une foi ferme. Résiste-lui. Ça veut dire que dans ma vie, les attaques de Satan, je peux y résister. La parole de Dieu me dit que je peux le faire. Et je peux avoir gain de cause devant Satan. Satan peut faire ce qu'il veut. Mais la seule chose que Satan est obligé de faire, c'est ce que Dieu lui dit de faire. Il est limité. Et Dieu dit à quelque part, « Toi, comme chrétien, tu es capable d'y résister. Bien, résiste-lui. Tu n'as pas de raison d'abandonner. » Finalement, le troisième ennemi, la chair. Cette fameuse chair, ah, qu'on aime tant. Et la parole de Dieu nous dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, c'est une guerre de tranchées, ça, hein, la guerre. Une guerre de tranchées, c'est une guerre à tous les jours. C'est une guerre qui peut même se répéter plusieurs fois par jour. Lorsque j'ai de la difficulté à ouvrir ma Bible, lorsque j'ai de la difficulté à lire, lorsque j'ai de la difficulté à méditer, ça ne vous arrive pas, vous autres? Un petit peu, moi. Ça m'arrive d'avoir de la difficulté à lire. Et je sais que des personnes m'ont dit « j'ai de la difficulté à lire ». Bien, c'est contre ma chair que je me bats. Ma chair ne veut pas ouvrir la parole de Dieu. Et où est-ce que je mets mon affection fait toute la différence. Comprenez-vous l'importance? Notre croissance, notre maturité spirituelle dépend que nous portions ou non, que nous portions ou que manions les armes de Dieu. Comment est-ce que l'on porte et qu'on manie, excusez les fautes de français. Comme pour apprendre à manier cette épée, je devrais passer des heures et des heures d'entraînement. Pas celle-là, là, mais celle que j'ai chez nous, elle est pesante. C'est une vraie. Je devrais passer des heures et des heures d'entraînement pour reformer ma musculation, pour aller chercher les techniques, pour être un bon épéiste. Je devrais passer des heures à manier ça. Et parler à quelqu'un qui va aux Jeux olympiques, des compétitions d'épée, combien d'heures qu'il passe à manier l'épée? Cette même logique se retrouve pour la parole de Dieu, pour l'épée de l'Esprit. Nous avons à passer des heures pour notre développement spirituel. Nous avons à la développer, nous avons à l'approfondir. Dieu avertit Josué, qui se prépare à investir la terre promise, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué a été investi pour conquérir la terre promise et son succès dépendait du temps passé par la parole. Nous sommes investis d'aimer Dieu et d'être des manifestants de son amour. Et notre succès dépend du temps que nous passons dans la parole. On pourrait essayer de trouver d'autres manières. Sauf que Dieu dit non. Si tu ne développes pas l'épée de l'esprit, tu vas être deuxième. Si j'avais à m'entraîner à manier l'épée, la première chose que je ferais, c'est que je voudrais connaître les composantes de mon arme et ses possibilités. Ça, c'est la poignée, la garde, la lame. Je devrais savoir ça. En n'importe quoi, c'est toujours ça. Ce qui est intéressant de voir comment Dieu appelle et identifie sa parole. Les noms que Dieu a donnés à sa parole, l'épée de l'esprit, ce que l'on voit présentement, la voix de la vérité, le souffle de Dieu, la loi de sa justice, les sentences de sa bouche, la parole de vie, les promesses de Dieu, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ces noms-là parlent d'eux-mêmes. Dieu donne à son livre une richesse, pas juste utile aux chrétiens, mais obligatoire aux chrétiens, obligatoire à la vie chrétienne. Je me pose la question, puis je vous la pose en même temps. Comment je vais faire pour croître comme chrétien si je néglige cet immense trésor que Dieu a mis dans ma vie? Romains 13, 12 nous dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de lumière. » Et Dieu nous exhorte continuellement à faire cela. On est rendu à la fin. Et voici la fin. La conclusion. Cette phrase-là, ces petits mots-là qui sont en avant, je suis sûr que plusieurs personnes, pour ne pas dire la totalité des personnes ici, peuvent le dire. « Mon Seigneur, et mon Dieu. » Vrai? Oui, tout le monde peut dire ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Mais savez-vous quelle implication ça a de dire cela? Un Seigneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a droit de vie et de mort sur nous. C'est quelqu'un que l'on doit obéir. Et le Seigneur, dans le temps des seigneurs et des vassaux, avait le droit de dire, tu m'obéis pas, je te coupe la tête. C'est pas le Seigneur que l'on a aujourd'hui. Mais de dire « Mon Seigneur et mon Dieu » devrait à quelque part réveiller nos esprits, devrait à quelque part nous faire dire le sérieux que les armes devraient avoir sur nous et le sérieux de mon implication comme chrétien. Ce n'est pas à aucun des anciens de le faire pour vous. C'est à chacun de nous de se prendre en main et d'être fidèle au Seigneur et de vivre ce qui est écrit là. Je considère Dieu comme mon Seigneur et je veux le respecter comme étant mon Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse nos vies afin que l'on prenne au sérieux cette qualité-là que Dieu a pour nous. Merci Seigneur pour le fait que tu nous diriges, que tu nous guides, que tu sois celui qui est constamment au devant de nous, Tu es notre Seigneur et nous voulons te considérer comme ça dans tous les aspects de notre vie pour ta gloire et pour ton nom. Amen.